Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier aussi les personnes qu'on revoit et les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Je pense à Dani. J'ai entendu plusieurs d'entre vous tousser, donc j'imagine qu'effectivement plusieurs sont aussi malades. Et j'ai pleinement compassion de ce qui vous arrive, puisque je suis passé par là. Et comme l'a prié tout à l'heure notre sœur Aline, eh bien. Oui, que le Seigneur restaure votre santé. Vous avez sans doute remarqué que depuis plusieurs années, s'est développé tout un vocabulaire pour décrire deux catégories de personnes. D'un côté, nous avons les leaders, les influenceurs, les youtubeurs, et de l'autre, les suiveurs, les followers, les abonnés. Et c'est un phénomène devenu massif à l'ère d'Internet. Et la plupart d'entre nous sont abonnés à des chaînes YouTube, à des pages Instagram ou Facebook ou encore autres. Et notre tendance est de suivre. Et ce n'est pas un engagement très coûteux, si ce n'est peut-être en temps. Par contraste, je me souviens d'un film que j'avais regardé quand j'étais au groupe de jeunes dans mon ancienne église. Ce film s'intitulait « Derrière le soleil » et montrait la vie de Samir, un étudiant d'arrière-plan musulman qui a cru en Jésus lors de son séjour aux États-Unis. Et quand il est retourné dans son pays pour visiter les membres de sa famille, il a vu très rapidement que son choix de suivre Jésus ne leur plaisait pas, au point qu'il a été menacé de mort. Et le voilà obligé de fuir. Voilà un peu le résumé de ce film. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est un film assez ancien. En tout cas, c'était ma première sensibilisation à la situation des chrétiens persécutés à cause de leur foi. Nous terminons ce matin notre série sur « Jésus est venu pour ». Et nous avons vu jusque-là que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons également vu que Jésus est venu pour guérir l'humanité de son péché. Jésus est venu également pour accomplir la loi, c'est ce qu'il déclare dans l'évangile de Matthieu. Et puis aujourd'hui, nous voyons le fait que Jésus est venu pour que nous le suivions. Jésus, en venant sur terre, a vraiment tout changé au sein de l'humanité. Des hommes et des femmes se sont mis à croire en lui et à le suivre. Un certain nombre d'entre vous ont aussi cru en Jésus et ont pris de ce fait la décision la plus importante de leur vie. C'est une décision qui a changé votre parcours de vie. Et c'est peut-être aussi un choix qui n'a pas plu à votre entourage. Le texte de ce matin, que nous avons entendu à l'instant, peut secouer et mérite des explications. Comment Jésus, le prince de paix, selon Ésaïe, peut-il dire qu'il est venu apporter l'épée, la division ? Nous pouvons aussi nous poser une autre question. Comment un homme aussi bon, qui a pris soin des malades, qui a fait du bien à son peuple, comment peut-il rencontrer autant d'opposition, de rejet de la part des autres hommes? Et si nous en croyons les paroles de Jésus, devenir son disciple est une affaire on ne peut plus sérieuse. Le texte de ce matin nous dit toute la vérité à propos de ce qu'est un véritable disciple de Jésus. Et comme nous l'avons lu, suivre Jésus peut coûter la vie. Suivre un youtubeur d'aujourd'hui ne coûte pas la vie. Mais suivre Jésus peut coûter la vie. Dans notre Occident, où nous sommes plutôt préservés des menaces de mort, nous avons peut-être plus souvent besoin d'entendre les paroles de notre Seigneur ce matin. Il nous rappelle encore que nous avons toujours une croix à prendre. Avons-nous pris la nôtre ? Sommes-nous toujours disposés en cette fin d'année 2024 à suivre, quoi qu'il en coûte, celui qui nous a appelés? Et pour saisir toute la portée de ce que Jésus est en train de dire ici, il nous faut d'abord regarder au contexte. Je vous propose de regarder cela avec moi. Matthieu, l'auteur de l'Évangile, a organisé son livre autour de 5 grands discours de Jésus. Le premier, alors je vais pas trop vite, le premier, Clément en a fait mention la semaine dernière, et sans doute aussi le plus célèbre, le Sermon sur la montagne, les chapitres 5 à 7. Le deuxième discours, le deuxième grand discours de Jésus se trouve au chapitre 10, le chapitre dans lequel nous sommes en ce moment même. Et entre les deux, eh bien, nous avons les chapitres 8 et 9, bien entendu, qui racontent, dans pas mal de détails, le ministère de Jésus. Un ministère extraordinaire. Jésus guérit les malades. Jésus calme une tempête. Jésus chasse des démons. Jésus appelle Matthieu à le suivre. Jésus ressuscite une jeune fille. Et évidemment, parmi tout cela, eh bien, Jésus aussi enseigne et il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous arrivons au chapitre 10 où Jésus prépare ses 12 disciples qu'il a choisis pour les envoyer en mission. Désormais, c'est à eux de pouvoir continuer, de poursuivre ce ministère. Et ce deuxième grand discours comporte des instructions, des mises en garde, des promesses. Et avant d'en arriver au verset d'aujourd'hui, le verset 34, où Jésus parle du fait qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Retenons d'abord trois thèmes qui sont évoqués dans ce chapitre 10. D'abord la constitution d'un nouveau peuple, ensuite la persécution, et un troisième thème, l'exhortation à ne pas avoir peur. D'abord, la constitution d'un nouveau peuple. Matthieu nous donne au début du chapitre 10 les noms des 12 apôtres. Et 12, dans la Bible, n'est pas un nombre anodin. Il nous rappelle, bien entendu, les 12 tribus d'Israël. C'est ainsi que le peuple d'Israël était constitué à partir des 12 tribus descendants de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Et maintenant, Jésus s'apprête à envoyer les 12 vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici, si ce n'est de constituer un nouveau peuple, avec tous ceux et celles qui veulent le suivre? Et dans le cadre de cette première mission, eh bien, Jésus ne les envoie pas vers les Samaritains, ni vers les non-juifs, parce que leur temps viendra plus tard dans le plan de Dieu. Donc ce premier thème, Jésus est venu pour constituer un nouveau peuple. Le deuxième thème, c'est la persécution. Jésus n'envoie pas les disciples en leur disant que tout va bien se passer pour eux et que tous les recevront les bras grands ouverts. Non, certains ne voudront rien entendre. Et d'autres, plus tard, iront jusqu'à les traîner en justice. Et certains même connaîtront le fouet, voire la mort. Et nous avons ce verset 21 qui prépare déjà la suite, qui prépare le verset 34. Nous lisons au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Les disciples de Jésus connaîtront l'opposition, le rejet, la haine, au même titre que leur maître. Et Jésus ne cache pas à ses disciples qu'ils connaîtront des souffrances et certains de la part de leur propre famille. Et puis, au milieu de tout ça, Jésus veut aussi les exhorter à ne pas avoir peur. Oui, il y a la persécution, mais il les exhorte à ne pas avoir peur. L'hostilité est inévitable, mais plusieurs fois, Jésus veut les rassurer. S'ils sont arrêtés, ils n'auront pas à se demander ce qu'ils diront. L'Esprit de Dieu leur donnera les mots pour parler et témoigner. Et le seul qu'il faut craindre à juste titre, c'est le Seigneur. Les hommes qui peuvent ôter notre vie physique n'ont que ce pouvoir. Mais ils n'ont pas le pouvoir de nous ôter le salut. Et c'est ce que nous voyons au verset 28. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer, c'est-à-dire Dieu. Jésus rassure ses disciples, Dieu veille souverainement sur eux. Ils sont plus précieux que des moineaux. Dieu qui veille aussi sur les moineaux, veille tout particulièrement sur ses disciples. Et après avoir dit tout cela dans ce discours sur la mission, eh bien, c'est là que nous arrivons au verset 34 où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un discours tranchant. Les paroles de Jésus peuvent être dures à entendre. Mais nous devons d'emblée écarter l'idée que Jésus soit venu pour apporter la guerre. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire ici. Avec Jésus, il n'y a pas une histoire de guerre sainte à mener. Il n'y a pas une histoire de croisade pour forcer les gens à croire par l'épée. Il n'y a rien de tout ça. Mais ici, Jésus écarte quand même une mauvaise compréhension de sa mission. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne pensez pas que ma venue va mettre tout le monde d'accord. Ne pensez pas que ma venue ne provoquera pas de conflit sur cette terre. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas que Jésus ne veut pas la paix sur la terre, mais il est évident que certains ne veulent pas du prince de paix sur terre. Le conflit vient de la résistance de celles et ceux qui rejettent celui que Dieu a envoyé. Et par sa venue, Jésus dévoile les intentions et le cœur du problème. Non, Jésus n'est pas venu pour masquer ce qui pose vraiment problème, à savoir que les hommes ne veulent pas de lui, ne veulent pas de Dieu. Et l'apôtre Jean rapporte dans son évangile ces paroles de Jésus. Jean chapitre 3, versets 18 et 19. Jésus dit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et nous comprenons par là qu'il s'agit de Jésus, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. » Est-ce que vous vous rendez compte de cette affirmation ? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Voilà ce que la venue de Jésus fait comme effet, dévoile. Et du fait que certains prennent position pour lui, sont prêts à le suivre, alors inévitablement cela génère une division, même au sein de la structure sociale la plus importante, la famille. Et le verset 35 explique le verset 34. Lorsque Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Et le verset 36 qui ajoute « Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. » Et nous avons à cet endroit, au verset 36, une allusion au verset de Michée, chapitre 7, verset 6. Au temps du prophète Michée, la société israélite était bien corrompue et loin de Dieu. Et on ne pouvait plus se fier à qui que ce soit. La loyauté n'était plus au rendez-vous. Et même la famille finissait par trahir. Eh bien, de la même manière, au temps de Jésus, le contexte était assez semblable. Tout simplement parce que certains n'étaient pas prêts à lui ouvrir leur cœur, pendant que d'autres reconnaissaient en lui le Messie tant attendu. Division. Un ancien étudiant de l'IBN m'a confié un jour combien l'idée de revoir sa famille, qui n'était pas chrétienne, était une épreuve pour lui. Il voulait leur parler de Jésus, mais à chaque fois, cela se transformait en sarcasme ou en débat tendu. Et ce frère en question, eh bien, connaît ce que Jésus dit ici. Division au sein de sa famille. Moi aussi, pendant des années, avant que mon père ne vienne au Seigneur, j'ai connu la division dans ma famille. Quand j'étais petit, j'avais peur des réactions de mon père qui étaient hostiles à Jésus. Et plus tard, mon père m'a clairement dit qu'il ne comprenait pas mon engagement, ma foi en Jésus. Division au sein de ma famille. Et je sais, pour certains d'entre vous, que cette division est également au sein de votre famille. Du fait que certains membres ne croient pas en Christ. Vous connaissez ce que Jésus dit ici. C'est une souffrance. Un coup qui est lié à la décision que vous avez prise de suivre Christ. Et notre tentation serait de délaisser notre engagement envers le Seigneur si cela pouvait ramener la paix au sein de la famille. Oui, vous avez bien entendu, notre tentation serait de délaisser notre engagement envers le Seigneur si cela pouvait ramener la paix. Mais en fait, trahir le Seigneur n'est pas envisageable pour le véritable disciple de Jésus. Et voici ce que Jésus dit ensuite, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et là aussi, il faut expliquer que Jésus ne demande pas à ses disciples de délaisser leur famille ou de ne pas honorer leurs parents. Mais si ces derniers s'opposent à Jésus, alors le disciple ne peut pas préférer ses parents à Jésus. Dans son cœur, le disciple aime premièrement et par-dessus tout le maître qu'il suit et qu'il sert. Oui, Jésus passe avant la famille. L'appel de Jésus à ses disciples est tellement radical. L'attachement qu'il demande, l'allégeance qu'il exige se place au-dessus de tout autre attachement. Nous avons ici la mention des parents et des enfants. Nous pourrions aussi penser aux conjoints ou aux amis proches. Dès lors qu'il y a opposition, divergence de point de vue, mésentente, notre choix en tant que disciple de Christ se portera toujours sur Jésus. Et là, on comprend pourquoi Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Et puis Jésus poursuit, toujours dans des paroles qui sont très fortes. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ces paroles soulignent très clairement que suivre Jésus a toujours un coût. Exige des sacrifices, non seulement par rapport à nos proches qui rejettent Christ, mais aussi par rapport à notre propre vie. À cette époque, celui qui prend sa croix, c'est le condamné à mort. Et Jésus ne cache pas qu'il est possible que son disciple, en choisissant de le suivre, meure à cause de lui. Et de ce que nous savons par tradition, tous les apôtres ont connu le martyre. Et bien d'autres chrétiens par la suite. Et chaque année, nous entendons, par l'organisme Portes Ouvertes, que des frères et sœurs y laissent leur vie à cause de leur appartenance à Christ. Mais ici, Jésus dit clairement que ce n'est pas la fin. Celles et ceux qui perdront leur vie physique à cause de lui la retrouveront. Jésus fait référence à la vie éternelle. et éventuellement à la résurrection des corps. Celles et ceux qui perdront leur vie physique à cause de lui la retrouveront. L'engagement que Jésus nous demande de prendre avec lui, c'est d'être prêt à le suivre coûte que coûte. Et voilà une question que nous devons nous poser encore ce matin. Jésus est-il plus précieux que ma propre vie? Jésus est-il plus précieux que ma propre vie? Suis-je prêt à y laisser ma vie à cause de lui? Je vous avais dit que ce discours était tranchant. Et il nous amène à réfléchir à ce que ça nous engage. Que devons-nous faire avec ces paroles de Jésus? Alors, nous pouvons très bien les ignorer et continuer à vivre notre vie, mais en nous éloignant toujours plus de ce qu'est un véritable disciple. Pourquoi devrais-je prendre ces paroles au sérieux, ce que Jésus vient de dire? Eh bien, il me semble que premièrement, il nous faut considérer celui qui nous appelle. Il faut prendre en considération celui qui dit ces paroles, celui qui nous demande de l'aimer plus que notre famille et plus que notre propre vie. Est-il bien digne que je lui cède tout ce qui m'est cher et tout ce qui compte pour moi? Est-il bien digne? Qui est ce Jésus venu apporter l'épée et mettre la division? Eh bien, cherchons directement la réponse dans l'évangile de Matthieu. Avec ces quelques versets, je parcours de nouveau à partir du chapitre 1. Qu'est-ce que nous lisons à propos de Jésus? L'ange qui dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Au moment du baptême de Jésus, au chapitre 3, nous lisons « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Un peu plus tard, au chapitre 8, au moment où nous parlons du fait que Jésus guérit les malades et chasse les démons, il est dit à propos de lui, par rapport à ce que Ésaïe avait dit auparavant, « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. » Et un peu plus loin dans ce chapitre, les disciples sont en pleine tempête et puis Jésus finit bien sûr par calmer la tempête et ils se disent « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Considérons celui qui a prononcé les paroles qui nous intéressent ce matin. Assurément, ce n'est pas n'importe quel homme. Et au fil de son récit, Matthieu nous présente Jésus, le Fils de Dieu envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Ce Fils de Dieu capable de miracles que nul autre ne peut accomplir. Et donc sa parole fait autorité, car sa parole est parole de Dieu. Celui qui nous appelle à le suivre n'est autre que Dieu. C'est pourquoi il peut tout à fait appeler ses disciples à le suivre jusqu'à la mort, jusqu'à préférer, le préférer à leur propre famille, le préférer à leur propre vie. Parce qu'il est Dieu. Et pour nous qui connaissons ce qui se passe après le chapitre 10, quand nous voyons le Fils de Dieu cloué sur une croix et que nous comprenons qu'il est venu sur terre pour mourir à notre place, subissant le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, eh bien nous nous disons alors qu'il est bien digne que nous le suivions jusqu'à notre dernier souffle. Lui seul a le droit d'exiger de nous un tel dévouement. Deuxièmement, il nous faut considérer que son appel à être son disciple est coûteux. C'est une vérité que nous devons retenir. Oui, son appel à être disciple peut même coûter la vie. Et Jésus ne réclame pas d'argent pour le suivre, mais une loyauté totale, une allégeance totale à son égard. Est-ce que mon cœur balance encore entre ce que le monde propose et ce que Jésus me demande ? Qu'est-ce qui fait encore obstacle entre Jésus et moi ? Qu'est-ce qui accapare mon cœur en ce moment ? Ou encore, pour le dire autrement, qu'est-ce que j'aime plus que Jésus ? Qu'est-ce que j'aime plus que Jésus ? Peut-être ma propre vie. Même si nous ne sommes pas dans la même situation que nos frères et sœurs persécutés, les paroles de Jésus que nous voyons ce matin doivent nous aider à avoir de nouveau conscience que devenir chrétien, c'est aussi être prêt à souffrir à cause de son nom, être prêt à supporter les conséquences de notre choix. Ne perdons pas cela de vue. Chaque fois que nous disons à un ami, à un camarade de classe, à un voisin ou à un collègue de travail que nous sommes chrétiens, nous devons, par la même occasion, être prêts, au mieux, à répondre aux questions, au pire, à connaître le rejet, les moqueries, le mépris. Et nous avons besoin que l'Esprit Saint nous fortifie dans ces moments-là pour assumer notre appartenance à Christ, de ne pas flancher. Et pour celles et ceux qui ont des membres de leur famille qui rejettent Christ ouvertement, je mesure que le Seigneur vous demande un coup particulier. La division au sein d'un même foyer est toujours une souffrance. J'en sais quelque chose. Et quand cela dégénère en conflit, c'est une souffrance aussi. Et j'en sais quelque chose. Et le Seigneur, qui dit toujours la vérité, ne nous l'a pas caché dans le texte d'aujourd'hui. Il demande à ses disciples de prendre leur croix. Et dans votre situation, votre croix ressemble à cela. Mais il leur demande aussi de le suivre. Oui, continuez de le suivre. Continuez d'être ses disciples. Continuez d'être attachés à lui plus qu'à qui que ce soit d'autre. Et bien sûr, continuez de prier pour le salut de vos proches. Le Seigneur répond à de telles prières dans sa grâce, et j'en sais quelque chose également. Il y a 15 ans de cela, mon père a donné sa vie au Seigneur, et la division entre nous a disparu. Mais désormais, il connaît à son tour la division avec d'autres membres de notre famille qui rejettent Christ. Voyez à quel point les paroles de Jésus sont toujours d'actualité. Mais comme le fait Jésus, je voudrais terminer sur une note positive, réconfortante. Considérons notre espérance. Oui, suivre Jésus a un coût élevé, mais ce que Christ nous a acquis par sa mort et sa résurrection est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus dit, « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » La phrase se termine ainsi. Ça finit bien, mes amis. Nous pouvons beaucoup perdre ici-bas à cause de notre engagement pour Jésus. Mais ce qu'il nous a promis, la vie éternelle à ses côtés, vaut bien tous ses sacrifices. Oui, c'est ça qu'il nous promet. Un bonheur qui n'aura pas de fin auprès du Dieu qui a tout donné par amour pour nous sauver. Alors oui, considérons notre espérance. considérons cette promesse merveilleuse pour nous. Suivre un YouTuber n'a rien de périlleux a priori, mais suivre Jésus coûte. Et il est venu sur terre il y a 2000 ans afin que des hommes et des femmes le suivent. Et ceux-ci ont transmis l'évangile de génération en génération et partout où Jésus n'était pas connu. Et aujourd'hui, si nous avons mis notre confiance en lui, si nous sommes prêts à prendre notre croix et à le suivre, nous sommes vraiment ses disciples. Et si nous avons manqué de persévérance durant cette année, eh bien c'est le moment ce matin de faire face à notre Seigneur et de renouveler notre engagement à le suivre, coûte que coûte. Et je voudrais vous laisser ce temps maintenant. Je vous invite à fermer les yeux. Je relis simplement les versets qui nous concernent. Les paroles de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Que pouvez-vous répondre à ces paroles de Jésus? Quel engagement pouvez-vous prendre maintenant vis-à-vis du Sauveur qui vous a appelé à lui? Seigneur Jésus, tu nous laisses des paroles percutantes qui ne peuvent laisser totalement indifférents. En tout cas, face à ton appel à te suivre, eh bien, cela nous engage nécessairement. Et peut-être que certains d'entre nous, eh bien, oui, nous avons pu flancher durant cette année. Nous sommes peut-être éloignés de toi. Beaucoup éloigné de toi. Et comme cela nous a été rappelé aussi un peu plus tôt lors de ce culte, tu connais notre cœur. Et tu sais, Seigneur, quelle est notre disposition présentement. Est-ce que nous sommes en train de te dire dans le secret? Seigneur, tu sais réellement ce qui nous anime et peut-être ce qui fait aussi obstacle. Et nous te prions, Seigneur, ôte les obstacles. Ôte ce qui est si cher à notre cœur et qui est placé au-dessus de toi. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, de t'aimer de tout notre cœur. Accorde-nous, Seigneur, anime cela, anime cet amour en nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que ce soit ton esprit qui le fasse en nous. Oui, crée en nous un cœur bien disposé. Et accorde-nous, Seigneur, de revenir à toi entièrement. Tu mérites, Seigneur, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait pour nous, tu mérites que nous t'abandonnions entièrement notre vie, que nous soyons prêts à mourir pour toi. Oui, personne d'autre ne peut exiger cela, mais toi seul, tu en es bien digne. Et vraiment, Seigneur, ma prière pour nous tous, c'est que nous puissions marcher d'une manière ferme avec toi, en comptant sur toi jour après jour, et en sachant que te suivre est toujours coûteux. Oui, permets-nous, Seigneur, de ne pas l'oublier. Et c'est ainsi que nous prions ensemble. Amen.